Radio Éthique vous propose une info durable réalisée par Stéphanie Reynaud.
Comment l'environnement agit de manière néfaste et insidieuse sur notre santé et dans notre vie de tous les jours? C'est la question à laquelle André Sicolella, chimiste toxicologue, tentera de répondre vendredi 31 janvier à Nice lors d'une conférence au Parc Phénix organisée par le Centre de découverte du monde marin. L'auteur de Toxic Planet, le scandale invisible des maladies chroniques, ne se contente pas de dresser un bilan de la situation sanitaire actuelle, il propose en effet des actions politiques et citoyennes pour mettre fin à la pollution globale généralisée.
C'est-à-dire que nous sommes confrontés dans le monde à une épidémie qui est donc mondiale de maladies chroniques, donc évidemment qui touche la France aussi. Et ces maladies chroniques sont pour l'essentiel des maladies d'origine environnementale. Alors il faut bien évidemment définir l'environnement de façon générale, de façon globale. Mais c'est une véritable crise sanitaire dont on n'a pas vraiment pris la mesure de façon générale. Dont le constat a été fait il y a 3 ans maintenant par l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation qui est tout à fait anormale. Donc qui va à l'encontre du discours que l'on entend encore trop souvent sur le fait que l'état de santé des Français n'a jamais été aussi bon. Pour vous donner un chiffre, sur 66 millions de Français, il y en a 27 qui peuvent être considérés en situation de malade chronique.
Quelles sont les maladies chroniques auxquelles vous faites référence? Le cancer en particulier?
Premièrement, les maladies cardiovasculaires. Deuxièmement, le cancer. Troisièmement, les maladies respiratoires et le diabète. Plus les affections mentales, vous avez là les grandes maladies chroniques qui font l'essentiel des maladies. Les maladies infectieuses en France sont très très minoritaires. Ça représente dans les affections de longue durée, en France ça représente 1 à 2%.
Quoi. Et alors qui serait dû à notre environnement, mais à quoi en particulier? Aux différentes molécules chimiques?
C'est un ensemble, c'est pour ça qu'il ne faut pas parler d'environnement au sens large. Tout ça est la conséquence des grands changements qui sont survenus dans l'après-guerre, et principalement à partir des années 60-70, c'est-à-dire la transformation de l'alimentation. On a perdu effectivement, diminué en tout cas largement la consommation de produits bruts, et on a perdu tous les micronutriments qui vont avec. Et donc c'est une nourriture qui est trop grasse, trop salée, trop chargée en additifs, et qui a perdu les micronutriments qui sont des micronutriments protecteurs de la santé. La progression de la consommation de soda dans les pays du Sud a été de 50% dans les 10 dernières années. Et on a la preuve d'ailleurs à partir d'une étude française notamment qui est parue l'an passé, faite auprès de 60 000 femmes, c'est l'étude de l'AMGEN, qui montre que la consommation régulière de soda light augmente le taux de diabète de 25%. Donc ça c'est le grand changement. Alors cette nourriture ultra transformée s'appuie évidemment sur l'agriculture productiviste, donc qui, elle, génère des contaminations par les résidus de pesticides, qui sont là aussi un élément de la contamination chimique généralisée, qui est le deuxième grand problème qui caractérise notre environnement, c'est la contamination chimique généralisée.
C'est-à-dire que même si l'on essaie de changer nos modes de vie, d'avoir une alimentation saine, dire stop au soda, manger des aliments bruts, c'est-à-dire non transformés, mine de rien, il reste quand même cette pollution globale à laquelle on ne peut pas échapper?
Alors, on peut y échapper en partie, mais on a quand même une contamination générale aussi de l'écosystème qui fait qu'on est exposé. Ce qui fait que, pour prendre une substance sur laquelle on a mis l'accent depuis qu'on a créé le réseau environnement santé, c'est-à-dire le bisphénol, bien, vous avez une contamination quasi totale de la population au niveau mondial par cette substance, à des niveaux qui sont des niveaux qui induisent chez l'animal des troubles sanitaires considérables. Ça contribue en tout cas à cette croissance des maladies chroniques. Le troisième facteur important, c'est tout ce qui tourne autour de la ville. La population mondiale est de plus en plus une population urbaine, avec des différences évidemment importantes selon les pays. Mais c'est là on va retrouver effectivement les problèmes de pollution de l'air. Donc ça, c'est une troisième cause, effectivement. Il y a d'autres causes aussi liées à la ville. Le lien maladie cardiovasculaire, absence d'espace vert, par exemple, est une donnée maintenant bien actée. Le quatrième facteur important, c'est le travail, qui est toujours une donnée invisible, comme si les gens ne travaillaient pas, comme si tout ça n'avait pas d'importance. Quand je terminais de rédiger mon livre, il y a eu l'affaire du Bangladesh qui est arrivée pour voir ce que signifient aujourd'hui les conditions de travail dans les pays du Sud, mais dans les pays du Nord, même si on n'est pas évidemment à ce niveau-là, on est dans un contexte où le travail est pathogène. Et puis le cinquième axe que j'ai mis en évidence, c'est la question des inégalités. On voit que les pays s'en sortent mieux du point de vue des indicateurs sanitaires sur les pays où l'indice d'inégalité est le plus faible.
D'inégalité économique et sociale.
Bien sûr.
J'en profite puisque vous parliez tout à l'heure du bisphénol A, qui a été donc interdit il y a maintenant 2 ans, je crois, dans les produits pour les petits, donc les biberons en particulier, puis ça s'est élargi aux produits pour les moins de 18 mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce bisphénol A, du coup, va être remplacé par d'autres types de bisphénol.
Non, pas forcément. Dans le cas des biberons, ça a été remplacé par du bras levaire, hein, qui était le matériau classique, ou le polypropylène, qui est une matière plastique qui n'est pas mise en cause. Évidemment, ça peut arriver, et c'est ce qu'il faut évidemment empêcher. D'où l'enjeu aujourd'hui d'avoir une stratégie d'innovation qui intègre la question de la santé. On ne peut pas faire l'impasse, comme on le fait encore trop souvent, sur le fait que l'innovation puisse se faire sans se tenir compte des conséquences sanitaires de cette innovation. Premièrement, on a un très gros problème, cette croissance des maladies chroniques dans le monde, mais deux, on a tous les éléments pour l'arrêter. Aujourd'hui, il manque quand même une volonté politique de s'attaquer à cette question-là, parce que la sphère politique reste encore sur un schéma totalement dépassé, qui est le schéma de l'après-guerre, où on fait ce qu'on croit que c'est par le soin qu'on va traiter les problèmes de santé. Évidemment, l'action curative est importante, mais elle n'est totalement insuffisante pour empêcher la progression des maladies. On le voit aujourd'hui, cette stratégie aboutit donc à une impasse. Il faut changer de stratégie. Je propose notamment que la définition de la santé par l'OMS soit complétée par une définition qui dise « la santé traduit la qualité de la relation de l'être humain à son écosystème », parce que ça donne effectivement la ligne directrice pour construire sa santé. On construit sa santé par rapport à son écosystème.
Protéger la santé de l'homme, c'est protéger son écosystème et inversement. Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous le vendredi 31 janvier au Parc Phoenix de Nice pour écouter André Sicolella. L'entrée de la conférence est gratuite.
C'était une interview réalisée par Stéphanie Reynaud.